Chapitre 26. Israël Hans. Le vent continue d'être favorable en tournant à l'ouest, ce qui rend facile l'accès de l'Hispaniola à la baie nord. Là, en suivant les conseils de Hans, Jim parvient à mettre la goélette en panne. Il ne reste plus qu'à attendre que la marée l'échoue en douceur. Le soir venant, Jim et le maître d'équipage sont assis chacun de son côté à prendre leur dîner quand ce dernier, d'un air finaud, demande « Captain Jim, ce serait gentil à toi de descendre à la cabine pour me chercher, Le diable m'emporte, je n'arrive pas à trouver le nom. Ah, me chercher une bouteille de vin. Cette eau de vie est trop raide pour moi, vois-tu » L'hésitation de Hans, lui semblant aussi peu naturelle que sa soudaine préférence pour le vin, Jim comprend qu'il veut lui faire quitter le pont. Il s'empresse donc de descendre par le capot, court à l'avant, grimpe vivement l'échelle du gaillard, passe la tête par l'autre capot. Juste à temps pour voir Hans qui s'est traîné jusqu'à un gros rouleau de cordage, prendre un couteau taché de sang et le cacher sous sa chemise. Désormais sur ses gardes, Jim rapporte une bouteille de Porto, dont le pirate avale une copieuse lampée. Vient le moment des ultimes manœuvres. Jim le sait, tant que leurs intérêts concordent, il n'a pas à se défier de Hans. Il lui obéit donc aveuglément. « Viens au vent, mon gars !» crie Israël Hans. Jim redresse le gouvernail. L'Hispaniola fait un dernier demi-tour pour s'avancer lentement, proue en avant, vers le rivage plat et boisé. Trop concentré, trop occupé à surveiller l'échouage par-dessus le bastingage, Jim a relâché sa surveillance. Et quand il se retourne, mis en alerte, il ne sait trop par quoi, Hans était à quelques pas, son couteau à la main. Leurs regards se croisent et chacun pousse un cri. Jim, un hurlement de terreur, Hans, un mugissement de taureau furieux qui charge. En même temps, il s'élance en avant, agile malgré sa blessure. Jim lâche la barre. Tel un ressort, elle part violemment en avant, lui sauve la vie en frappant son agresseur en pleine poitrine. Jim s'éloigne un peu, tire un pistolet de sa poche, vise posément malgré Hans qui marche sur lui. Il presse la détente, le chien s'abat, ni éclair, ni détonation, le coup ne part pas. L'eau de mer a mouillé la morse. Rarement Jim s'est vu en aussi mauvaise posture. Surtout, ne pas se laisser coincer à l'avant, sinon c'en est fini de son séjour de ce côté-ci de l'éternité. La main sur le grand mât, le cœur battant à se rompre, il attend que Hans vienne assez près pour repartir en courant dans l'autre sens, quand l'Hispaniola touche le fond, s'arrête net et se couche sur le côté par bâbord. Le choc projette l'un sur l'autre le poursuivant et le poursuivi, tandis qu'une masse d'eau balaye le pont. Jim se relève le premier, mais courir sur le pont est devenu impossible. Sans hésiter, il saute dans les haubans du grand mât et grimpe, jusqu'à pouvoir s'asseoir sur la barre du perroquet. Profitant de l'avance qu'il a prise sur son ennemi, Jim réamorce ses pistolets et les charge de frais. « Un pas de plus, monsieur Hans, et je vous brûle la cervelle » peut-il lancer au quartier-maître, qui, son couteau entre les dents, a entrepris l'ascension du grand mât à son tour. Du coup, l'autre s'arrête, et après un moment d'hésitation, ôte le couteau de sa bouche pour répondre. « Jim, mon gars, on est mal engagés tous les deux. Me semble qu'il vaut mieux qu'on fasse la paix. Je reconnais que t'es le plus fort, et crois bien que c'est pas facile pour un vieux matelot comme moi de rendre les armes à un moussaillon de ton espèce. » Il n'a pas fini de parler que quelque chose chante dans l'air. Jim, qui un instant plus tôt était fier comme un coq de sa victoire, sent un choc, une douleur aiguë, et se trouve cloué au mât par l'épaule. Sous l'effet de la souffrance, autant que de la surprise, il fait feu, des deux pistolets en même temps, qui lui échappent des mains. Il ne tombe pas seul. Avec un cri étouffé, le quartier-maître lâche sa prise et plonge dans l'eau, la tête la première. Chapitre 27, pièce de 8. Comme le bateau s'inclinait sur un bord, une bonne partie des mâts surplombait l'eau, et, depuis mon perchoir, je n'avais rien que la surface de la baie au-dessous de moi. Hans, qui n'était pas aussi haut et se trouvait donc plus près du bateau, est tombé entre moi et le bastingage. Il est remonté, une fois à la surface, dans un bouillonnement de bulles et de sang, puis il a coulé pour de bon. Quand les remous se sont calmés, j'ai pu le voir, recroquevillé sur le sable clair et luisant, dans l'ombre du navire. Un poisson ou deux sont passés prestement près de lui. Par moments, à cause du tremblement de l'eau, on aurait dit qu'il bougeait un peu, comme s'il essayait de se relever. Mais il était mort, pour de bon, à la fois tué par balle et noyé. Il était désormais de la nourriture pour les poissons, à l'endroit même qu'il avait choisi pour m'assassiner. Je n'en ai pas plutôt été persuadée que je me suis sentie malade, faible et terrifiée. Du sang chaud coulait sur mon dos et sur ma poitrine. Le poignard, à l'endroit où il avait épinglé mon épaule au mât, me brûlait comme un fer rouge. Ce n'était pas tant ces douleurs physiques qui provoquaient mon désarroi. Celles-là, me semblait-il, je pourrais les supporter sans un murmure. C'était l'horreur que me causait l'idée que je pourrais tomber du mât dans cette auverme immobile à côté du cadavre du quartier maître. Je me cramponnais des deux mains, à m'en faire mal aux ongles, et je fermais les yeux comme pour me dissimuler le péril. Graduellement, du courage m'est revenu. Mon pouls a ralenti pour battre à un rythme plus naturel et je me suis retrouvée maître de moi-même. J'ai d'abord songé à arracher le poignard, mais soit qu'il était planté trop profond, soit que mes nerfs m'aient trahi, j'ai renoncé en frissonnant. Assez bizarrement, ce frisson a fait le travail. En fait, la lame m'avait presque manqué. Elle ne me retenait que par un petit bout de peau que le frisson a suffi à déchirer. Bien sûr, le sang a coulé plus abondamment, mais j'étais de nouveau libre de mes mouvements, épinglée que j'étais au mât, seulement par ma veste et ma chemise. Je les ai déchirés d'un mouvement brusque et j'ai regagné le pont par les cordages de tribord. Pour rien au monde je ne me serais aventurée, choquée comme je l'étais, sur ceux de bâbord d'où Israël venait de tomber. Une fois en bas, je me suis occupée comme j'ai pu de ma blessure. Elle faisait mal et saignait encore un peu, mais elle n'était ni profonde ni dangereuse. Elle ne me gênait pas beaucoup non plus quand j'utilisais mon bras. Ensuite, j'ai regardé autour de moi. Le bateau était désormais mien, dans un certain sens. J'ai eu envie de le débarrasser de son dernier passager, le mort, O'Brien. Il avait glissé, comme je l'ai dit, contre le bastingage où il gisait comme une espèce d'horrible mannequin grotesque, de la taille d'un homme vivant, certes, mais bien loin de présenter les couleurs ou la joliesse du vivant. Vu sa position, il me serait facile d'en venir à bout. La succession des événements tragiques avait fait disparaître chez moi toute terreur vis-à-vis des morts. Je l'ai pris par le revers, comme s'il s'était agi d'un sac d'avoine, et d'une bonne poussée, je l'ai fait basculer par-dessus bord. Il a disparu dans un bruit de plongeon, et seul son bonnet rouge est resté à flotter sur l'eau. Quand les remous se sont apaisés, je les ai vus, lui et Israël, couchés côte à côte, tremblant légèrement au gré des mouvements de la mer. O'Brien, bien qu'encore jeune, n'avait plus un cheveu. Il était là, sa tête chauve sur les genoux de celui qui l'avait tué, tandis que des poissons nageaient vivement de ci de là au-dessus d'eux. J'étais seule sur le bateau. La marée venait de s'inverser. Le soleil était si près de se coucher que les ombres des pins de la rive occidentale tombaient sur le mouillage en dessinant des formes sombres sur le pont. La brise du soir s'était levée et même si l'ancrage était bien protégé, à l'est par la colline avec les deux pitons, le cordage commençait à chanter doucement et les voiles qui pendaient à claquer de temps à autre. J'ai commencé à comprendre que le bateau était en danger. Je me suis empressée d'amener les focs sur le pont. Mais pour la grand-voile, c'était une autre affaire. Quand la goélette s'était inclinée, le gui s'était déporté au-delà du bord. Sa pointe et un pied ou deux de voile trempaient dans l'eau. J'ai pensé que cela rendait la situation encore plus dangereuse, mais la tension était si grande que j'avais un peu peur d'intervenir. Finalement, j'ai tiré mon couteau et j'ai coupé les cordages. Le gui d'Artimon est tombé instantanément et un gros ventre mou de voile s'est étalé sur l'eau. Après quoi, j'ai eu beau tirer, je n'ai pas pu bouger le hallebas. C'était tout ce que je pouvais faire. Pour le reste, l'Hispaniola, comme moi-même, devrait s'en remettre à la chance. À ce moment-là, l'ombre avait envahi tout le mouillage. Les derniers rayons du soleil, je m'en souviens, passaient à travers une éclaircie dans le bois et brillaient comme des bijoux sur le manteau fleuri de l'épave. Il commençait à faire frais. La marée descendait rapidement vers la mer et la goélette penchait de plus en plus sur son flanc. J'ai rampé jusqu'à l'avant et j'ai regardé devant moi. L'eau semblait peu profonde. En tenant la mare que j'avais coupée à deux mains, je me suis laissé glisser doucement par-dessus bord. L'eau m'arrivait à peine à la taille. Le sable était ferme et couvert de ridules. Je me suis dirigé vers la terre, très content de moi, en laissant l'Hispaniola couchée sur le côté, avec sa grand voile qui s'étalait largement sur la baie. À ce même moment, le soleil a disparu et la brise a sifflé tout bas dans le crépuscule, parmi les pins qu'elle agitait. Au moins, et enfin, j'avais quitté la mer et je n'en revenais pas les mains vides. La goélette attendait là, débarrassée des boucaniers et prête à accueillir nos hommes pour reprendre le large. Rien ne me plaisait plus que l'idée de revenir au fortin et de m'y vanter de mes succès. Je risquais peut-être de m'entendre reprocher mon équipée, mais la capture de l'Hispaniola était une réponse incontestable aux critiques et j'espérais que le capitaine Smollett lui-même admettrait que je n'avais pas perdu mon temps. Dans cet état d'esprit rempli d'optimisme, je me suis mise en chemin vers le fortin et mes compagnons. Les deux rivières qui se jetaient dans le mouillage du capitaine Kidd, celle située la plus à l'est, je m'en souvenais, coulait depuis la colline aux deux pitons sur ma gauche. J'ai pris cette direction pour la passer tant qu'elle était petite. Les bois n'étaient pas épais. En progressant le long des premières pentes, j'ai eu vite fait de contourner la colline, et peu après j'ai franchi la rivière en question à gué. Cela m'a mené près de l'endroit où j'avais rencontré Ben Gunn, le marron. J'ai continué avec plus de circonspection en regardant de tous les côtés. Le crépuscule s'était fait nuit noire, et en explorant du regard un vallon entre deux hauteurs, j'ai discerné une petite lueur à l'endroit où, ai-je pensé, l'homme de l'île faisait cuire son dîner devant un bon feu. Je me suis tout de même étonnée en mon fort intérieur qu'il se montre aussi imprudent. Car, si je pouvais la voir, ne risquait-elle pas d'être aperçue aussi par Silver depuis l'endroit où il campait dans les marais près du rivage? Graduellement, la nuit est devenue plus sombre. Tout ce que j'ai pu faire a été de continuer approximativement vers ma destination. La colline aux deux pitons derrière moi et la longue vue à ma droite paraissaient de plus en plus indistinctes. Les étoiles étaient pâles et rares. Je n'arrêtais pas de trébucher dans les buissons ou de rouler dans les trous de sable. Soudain, une sorte de clarté m'est tombée dessus. J'ai levé la tête. Un pâle clair de lune illuminait faiblement le sommet de la longue vue. Peu après, j'ai vu quelque chose de large et d'argenté qui apparaissait très bas derrière les arbres. J'ai su que la lune se levait. Grâce à ce renfort, j'ai parcouru rapidement ce qu'il restait à faire de mon trajet, parfois marchant, parfois courant, et plein d'impatience, je suis arrivée à proximité du fortin. Au moment d'entrer dans le bosquet qui s'étendait juste devant, cependant, je n'ai pas été étourdie au point de ne pas ralentir l'allure et d'avancer plus prudemment. Quelle triste fin pour mes aventures que d'être abattue par erreur par quelqu'un de mon propre camp. La lune montait dans le ciel. Sa clarté commençait à tomber largement ici et là sur les parties du bois les plus dégagées. Juste devant moi, une lueur d'une couleur différente apparaissait parmi les arbres. C'était rouge et chaud, et de temps en temps un peu plus sombre, comme s'il s'agissait des braises encore ardentes d'un feu de camp. Sur ma vie, je n'arrivais pas à comprendre de quoi il s'agissait. Je suis finalement parvenue à la limite de la clairière. La partie à l'ouest était déjà inondée par la lumière de la lune. Le reste, y compris le fortin lui-même, se trouvait encore dans une ombre épaisse que quadrillaient des éclats de lumière argentée. De l'autre côté du bâtiment, un immense feu était réduit à l'état de braise brillante et projetait une lueur rouge vif qui contrastait avec la douce pâleur de la lune. Pas une âme ne bougeait, pas un bruit non plus, sauf ceux du vent. Je me suis arrêtée avec, au cœur, beaucoup d'étonnement et peut-être un peu de crainte aussi. Il n'était pas dans nos habitudes de bâtir de grands feux. Nous étions même, sur ordre du capitaine, très économes du bois à brûler. J'ai commencé à craindre que quelque chose ait mal tourné pendant mon absence. J'ai gagné le côté est, en restant caché dans l'ombre, et à l'endroit le plus propice, là où l'obscurité était la plus épaisse, j'ai franchi la palissade. Pour plus de sûreté, je me suis mise à quatre pattes, et j'ai progressé ainsi, sans un bruit, jusqu'à l'angle du fortin. Alors que j'approchais, je me suis sentie brusquement et grandement soulagée. Ce n'est pas un bruit agréable en soi, et je m'en suis souvent plaint en d'autres occasions. Mais à ce moment-là, entendre mes amis ronfler à l'unisson si fort et si paisiblement dans leur sommeil a été comme de la musique. Le cri de la vigie en mer, le « tout va bien » n'a jamais sonné plus rassurant à mes oreilles. En tout cas, un fait était hors de doute, il surveillait le camp de façon déplorable. Si Silver et Sega avaient été à ma place, pas un de mes amis n'aurait revu le jour. C'était les conséquences, ai-je pensé, de la blessure du capitaine. Et une fois encore, je m'en suis amèrement voulu de les avoir laissés en plein danger, aussi peu nombreux pour monter la garde. J'étais arrivée à la porte. Je me suis remis debout. Tout était noir à l'intérieur, si bien que je n'ai rien pu voir. Pour les sons, il y avait le bourdonnement puissant des ronfleurs et un petit bruit de temps à autre, un froissement de plumes ou un coup de bec que je ne parvenais à m'expliquer en aucune manière. Les bras en avant, je suis rentrée doucement. J'allais me coucher à ma place, et je pensais en riant sous cap, et voir leur tête quand ils me trouveraient le lendemain matin. Mon pied a heurté quelque chose de mou, c'était la jambe d'un dormeur. Il s'est tourné en grognant mais sans se réveiller. Et tout d'un coup, une voix aiguë a retenti dans les ténèbres. « Pièce de huit, pièce de huit, pièce de huit, pièce de huit, pièce de huit !» Et ainsi de suite, sans une pause ni un changement de ton, comme le tic-tac d'un petit moulin. Le perroquet vert de Silver, Captain Flint, c'était lui que j'avais entendu becquer son perchoir. C'était lui qui, meilleur sentinelle que n'importe quel humain, prévenait de mon arrivée avec son refrain si pénible. Je n'ai pas eu le temps de me ressaisir. Au cri perçant du perroquet, les dormeurs se sont éveillés et ont bondi sur leurs pieds. Avec un puissant juron, la voix de Silver a crié « Qui va là ?» Je me suis retournée pour m'enfuir et je me suis cognée violemment dans quelqu'un. J'ai reculé pour courir droit dans les bras d'un second qui, lui, m'a saisi et m'a tenu fermement. « Apporte une torche, Dick !» a dit Silver quand ma capture a été certaine. Un des hommes est sorti du fortin et presque aussitôt est rentré avec une blanche branche enflammée.